Alors, bonsoir à tous. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Super. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du conseil d'administration, cette assemblée ordinaire du 9 avril, 17h04. Je m'en excuse. On a commencé un petit peu en retard. Donc, voilà. Bonsoir. Je vois qu'on a des invités dans la salle. Donc, on irait pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, proposé par M. Lachance, appuyé par M. Weiser. Merci. Déclaration d'intérêt de l'un ou l'autre des membres du conseil d'administration? Non? Donc, nous en serions point 4, période de questions du public. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à vous rendre au micro, à donner votre identité et à poser votre question. Bonsoir, Mme
Dion. Bonsoir, Francine Dion de Val-Belair. J'ai quelques questions que j'ai ramassées. Il y a des modifications qui s'en viennent au mois d'août. Je veux savoir si le parcours 70 qui remplace le 77 va passer au même endroit. Parce que là, il prend Amiral puis il descend par la rue Adam pour prendre Sainte-Geneviève. Est-ce que ça va exister encore?
Est-ce que c'était votre seule question?
Non.
Je vous invite à poser l'ensemble de deux questions. Une question et une sous-question, puis ensuite, on pourra prendre le temps d'y répondre.
Après ça, j'ai les abribus. Il y a 3 abribus sur la rue Amiral, sur la rue de la Montagnesse, d'à peu près 1 kilomètre. Le plus drôle, c'est qu'il y a un abribus en haut de la rue Castor, il y a un abribus en haut de la rue Castor, un autre abribus en bas de la rue Castor, elle a à peu près 1 kilomètre. Mon autre question concerne la possibilité de desservir le centre culturel de Georges d'Or, puisque la maison de la famille s'en va là. Moi, je vous suggère, quand ils prennent la rue de la Montagnesse, de tourner sur la rue Eldorado et ils vont arriver sur la rue de l'Etna. Avec tout ça, dans ce secteur-là, sur la rue de l'Etna, ils vont pouvoir desservir la rue des Éloges, Estacade, Échiquier, Emerson, Edison, Esquif et arriver au bout. Toutes ces rues-là arrivent sur Etna. Et il va arriver au bout, près de la route sur la route de l'aéroport, près du centre Georges d'Or, il va pouvoir redescendre.
Merci, Mme Dion. Merci, vous pouvez retourner vous asseoir.
Donc, je peux vous donner...
Oui, ma collègue pourrait les prendre à ce moment-là, qui est juste ici. Mme Dion est aussi présidente du conseil de quartier de Val-Belair, donc c'est pour cette raison-là qu'on est déjà rentré en interaction. Ce que je pourrais vous dire, là, c'est sûr, quand on y va de façon très, très granulaire, à savoir pourquoi le 70 pourrait être remplacé par le 77, je n'ai pas la réponse précise à votre question. Il faut savoir, par exemple, que la planification des services du RTC, c'est une planification qui est faite de façon rigoureuse, qui est analysée en fonction de chaque montée et descente à un arrêt qui se trouve, en fonction des générateurs de déplacement, en fonction de la densification aussi également. Sachez, je pense que vous l'avez souligné aussi, il y a eu une refonte du réseau qui a été présentée notamment en février dernier aux citoyens de Val-Belair dans le secteur dont il est question. Les gens ont salué quand même le prolongement du parcours 804 qui monte jusqu'à Val-Belair dorénavant, qui va être en place dès cette année. Ça, c'est une excellente nouvelle pour les gens de Val-Belair. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Pour ce qui est des autres parcours de notre desserte régulière, bien, on prend bonne note de ça. On a les documents, on pourra regarder le tout, mais c'est sûr que pour la période à très court terme, il n'y aura pas de changement parce qu'on va laisser vivre le changement qu'on vient d'implanter et qu'on vient de présenter aux citoyens. Pour ce qui est des abribus, on en prend bonne note également, mais il faut savoir que les abribus, on a un grille de critères maintenant. Pas maintenant, elle a toujours existé, mais on en a parlé quand même l'an dernier abondamment dans les médias pour dire que les abribus qui sont en place, oui, on les maintient jusqu'à temps qu'ils répondent aux critères là, au niveau de l'entretien. Il n'y aura pas de sous-question, Mme Dion, cependant, mais qu'évidemment, si un abribus était là et qu'il est arrivé en fin de vie et que les montées et descentes ne justifient plus le maintien de l'abribus à cet endroit-là, malheureusement, on se doit de le retirer. Par contre, on a pris engagement de retirer les abribus au plus tard à l'automne, avant le début là, du froid qui apparaît, pour justement donner de la prévisibilité, parce que c'est sûr qu'en été, on a moins besoin d'un abribus qu'en plein hiver. Donc ça, c'est l'engagement qu'on a pris envers nos citoyens. Et finalement, possibilité de desservir le centre culturel, bien écoutez, on en prend bonne note, puis M. Girard pourra l'analyser dans la planification. Merci, Madame Dussault. Oui. Bonsoir.
Bonsoir, Madame la Présidente.
Bonsoir, bonsoir.
Content de vous revoir.
Oui.
Nicolas Loisel, président du syndicat d'entretien, réseau de transport de la capitale. Dans le fond, la question ne devrait pas être trop surpris. Dans le fond, on a eu appris une mauvaise nouvelle que le centre Newton, on avait la CAQ a attiré ses subventions. Dans le fond, ma question est, il y a encore des pelles mécaniques qui creusent, mettant à ce qu'il y ait une solution ou un plan B. Avez-vous, je sais qu'il est tôt pour poser la question, mais avez-vous un plan B pour financer ce projet-là? Est-ce que ça va aller sur des choix? Parce qu'on a beaucoup de projets au RTC, hein? On a MCL, on a le tramway. Est-ce qu'il va falloir faire des coupures pour subventionner ce gage-là ou on va se servir du financement du tramway pour construire, tu sais, le consortium qu'on suivait un autre garage pour entretenir le tramway? Est-ce qu'il faut choisir? Peut-être qu'elle est vague, la question, mais c'est quoi le plan B?
Parfait. Merci de la question. D'abord, il faut savoir que quand la décision du gouvernement du Québec est tombée la semaine dernière, vous l'aurez bien compris quand vous avez regardé là, possiblement la revue de presse, on a dénoncé cette décision-là du gouvernement du Québec. Il faut savoir que l'électrification, toute la transition énergétique, c'est une demande du gouvernement du Québec d'électrifier l'ensemble, 55 % de la flotte des autobus urbains en 2030 et de subventionner aussi uniquement les bus électriques à partir de 2025 de cette année. Donc, on doit adapter nos infrastructures. Newton, de notre côté, était en route depuis longtemps. Le gouvernement était au courant. On a eu 250 rencontres avec le gouvernement du Québec là-dessus, donc il n'y avait pas de surprise de leur côté. Maintenant, c'est sûr qu'il est trop tôt pour staturer sur un plan B. Moi, j'ai le goût de miser sur le plan A, qui est un plan A qui répond aux exigences du gouvernement en matière d'électrification, qui va pouvoir justement accueillir nos bus, qui va nous permettre aussi, vous le savez, nos garages sont quand même à pleine capacité à l'heure actuelle. Donc, nonobstant l'électrification, on a besoin d'un troisième garage. Je n'ai pas le goût pour l'instant de renoncer au garage Newton. Vous avez vu la sortie la semaine dernière. On continue nos démarches avec le gouvernement du Québec. On continue de mettre de la pression. Les autres sociétés de transport sont exactement dans la même position que nous. Le gouvernement, s'il met des cibles en termes d'électrification, il doit nous donner les moyens de son ambition, de ses ambitions à lui, parce que nous, c'est très clair, l'électrification ne doit pas se faire au détriment de l'offre de service. Donc, pour l'instant, pas de coupure d'envisager du tout. Ce n'est pas là qu'on est. Oui, on a beaucoup de projets en cours, mais il ne faut pas les regarder tous dans la même lorgnette. Chaque projet a sa raison d'être. Si on prend MCL, il y a sa raison d'être. C'est des questions de santé et sécurité, notamment, vous le savez, en lien avec la pyrite. Deuxièmement, si on prend d'autres projets comme le tramway, c'est notre colonne vertébrale. Il est porté, ce projet-là, par la CDPQ Infra. Oui, on sera futur exploitant, mais c'est un projet qui est essentiel, encore une fois, quand on regarde l'usager, puis qu'on a le cœur l'usager. Notre mission, c'est de servir du transport collectif, là. Tous ces projets-là sont essentiels. Ils s'imbriquent entre eux pour s'assurer qu'on poursuive notre mission, puis que ce soit au bénéfice de nos usagers de Québec.
J'aime bien votre réponse. J'adhère à ça aussi, parce que l'électrification, c'est le futur, puis je crois que l'entretien est capable de le faire, capable de soulever le défi. Par contre, je me dois d'une sous-question.
Oui, vous avez le droit à une sous-question, donc oui. Allez-y.
Le tramway, OK, c'est le consortium, l'exploitant, puis le constructeur. La bâtisse qui va entretenir ce tramway-là, ça ne sera pas entretenu par l'entretien. C'est encore dans les visions, là, d'exclure l'entretien. Est-ce que ça serait un choix de dire, on abandonne le tramway, c'est pas un... Je crois qu'il n'est pas populaire à Québec, le tramway. Puis de mettre l'emphase plus sur l'électrification que sur un transport que les gens ne veulent pas. On y va vers une énergie verte, c'est 100 % électrique, entretenu par l'entretien.
Il faut savoir que le tramway, là, il y a eu plusieurs études, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études scientifiques qui pointent tous vers le mode du tramway capacitaire. Le dernier tour de roue qui a été fait de façon rigoureuse, c'est la CDPQ Infra qui a été mandatée par le gouvernement du Québec l'an dernier pour le faire. À travers toutes leurs études, les experts, les centaines d'experts qui ont contribué justement à étudier l'ensemble du territoire de Québec, quel mode, tout a été analysé, là, à partir du métro léger, aller jusqu'au SRB, etc., ça pointe vers le tramway. Du moment que Maintenant, ils ont révélé que c'était le tramway qui était retenu. Il y a eu une entente entre le gouvernement du Québec, entre la CDPQ Infra et la Ville de Québec. Maintenant, ce n'est pas le RTC qui peut décider à ce stade-ci si oui ou non on va de l'avant avec le tramway, vous l'aurez compris. Par contre, je peux vous dire que oui, le RTC est favorable à implanter un tramway à Québec. On en a besoin. On a besoin d'un mode capacitaire. On est, vous le savez, là, avec le nombre de déplacements qui sont attendus d'ici 2050, on va arriver à, d'ici 2051, à 1 million de déplacements. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas la capacité avec notre réseau, bien qu'il soit bon, d'accueillir ce flux-là supplémentaire. Donc, on doit s'en aller vers là. C'est le bon choix, le bon mode pour Québec, pour la suite des choses, puis pour l'avenir de la mobilité.
On est ouvert aux discussions. Impliquez-nous.
Merci. Bonsoir.
Bonjour. Bonsoir, c'est moi. Juste vous dire, vos noms sont inversés, là. C'est une petite technicalité, mais... J'ai au micro, puis je remarque ça, là.
C'est... Merci.
Ma question était, Madame la Présidente, est-ce qu'en abandonnant les financements pour Newton, l'électrification tombe caduque aussi? Est-ce qu'on va vers d'autres choses?
Bien, encore une fois, je serais bien malvenue de vous dire qu'est-ce qu'il y en est, parce que est-ce qu'on abandonne l'électrification? Je ne peux pas répondre à cette question-là. L'électrification, c'est le gouvernement du Québec qui a statué sur la stratégie d'électrification par le biais de son plan pour une économie verte, pour la réduction des gaz à effet de serre. Puis comprenez-moi bien, là, c'est très vertueux tout ça. Personne ne peut être contre l'électrification, mais au-delà de ça, je leur ai dit, l'électrification, ça ne change rien pour l'usager. Oui, ça change des choses pour la qualité de l'air, etc. Puis ça, on adhère tous à ça. Personne ne peut être contre la vertu. Mais au-delà de ça, ce dans quoi il faut investir, c'est l'offre de services. C'est l'offre de services. On veut aussi s'attacher aux propres orientations du gouvernement du Québec dans leur politique de mobilité durable qui disait que ça prenait 5 % d'augmentation d'offre de services par année. Pour un usager du transport collectif, lui qui roule dans un bus électrique ou un hybride, ça ne change rien. Ce qu'il veut, c'est de la fréquence, de l'efficacité, puis il veut que son bus soit là à l'heure, puis à temps, puis que ça soit fluide dans la circulation. Puis ça, toutes nos énergies sont concentrées vers ça au RTC pour avoir un service, un réseau efficace, puis avec des options de mobilité toujours plus devant nous, sur l'ensemble du territoire, du centre-ville de Québec jusque dans les périphéries, Ancienne-Lorette puis Saint-Augustin. Puis c'est exactement là qu'on planifie depuis longtemps le RTC, depuis 2 ans déjà, toute cette séquence-là avant que les voies réservées, avec tout le plan de développement du RTC, le tramway inclus aussi. Puis c'est un tout, on ne peut pas décortiquer tout ça.
Donc, on parle d'un service fiable au meilleur coût possible. Je reviens à ma question d'il y a à peu près un an que j'avais posée. Est-ce que le RTC a encore comme devise d'avoir un service fiable, efficace, au meilleur coût possible?
Toujours.
Ça, j'ai déjà posé ça il y a un an. Puis, j'ai parlé sous question d'une politique de carboneutralité par rapport au dernier conseil. Vous étiez absente. J'ai demandé si on avait une politique de carboneutralité au dernier CA, il y a un mois, et j'ai pas eu de réponse. On m'avait tourné vers les ressources humaines, nos RH, mais j'ai pas plus eu de réponse par rapport à ça.
De carboneutralité ou une politique de développement durable?
Parce que, tu sais, on a des véhicules qui marquent véhicule vert, on a beaucoup de... On se tourne vers là, un véhicule électrique, mais tu sais, si...
Oui, OK, je comprends. Bien, c'est ça. Je pourrais peut-être laisser M. Girard compléter, là, mais c'est sûr qu'on a déjà une politique de développement durable. La carboneutralité, c'est dans des projets. Hein. Des fois, on vise des projets carboneutres, etc. C'est pas la même chose, mais c'est sûr, le virage vers le développement durable, les entreprises aujourd'hui, encore plus une entreprise de mobilité durable, doit faire ce virage-là. Tout le monde est unanime de ce côté-là. Je pense que dans la sphère organisationnelle, si on ne migre pas vers un virage toujours plus vert, toujours plus durable, on va perdre devant les défis qui sont les nôtres. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé beaucoup là, à la transition à l'interne vers des pratiques de développement durable toujours mieux. Je pense au recyclage, notamment, des cartons d'emballage. Il y a eu plein de recyclage aussi des équipements électroniques. Le MCL, au lieu de faire une démolition, on fait une déconstruction, donc pour récupérer justement les matériaux. Donc ça, c'est toutes des bonnes pratiques qu'on met en place à l'interne. Je pense à la réutilisation, le recyclage des batteries aussi. M. Girard pourrait probablement en nommer plus que moi, mais vous savez, c'est nécessaire de faire ce virage-là. Et je remercie les employés aussi, j'en profite pour le dire, parce que cette transition-là nécessite des façons de faire qui sont différentes. On le sait, on a les ressources aussi qui sont mises à profit pour accompagner là, l'ensemble des équipes à travers cette orientation-là de politique de développement durable. Mais je vous remercie d'y aller avec nous parce que c'est nécessaire qu'on soit tous ensemble vers cette transition-là. Voilà.
Mais si je comprends, il n'y a pas de politique interne qui est tournée vers là. Oui, on fait des efforts, mais on n'a pas rien, parce qu'il y a plusieurs règlements politiques. Là, je sais pas.
Vous aviez droit à votre sous-question. Vous êtes rendu
à trois questions. Parce que j'ai posé la même question il y a un mois, puis j'ai pas eu plus de réponses.
Mais
on a une
politique de développement durable, je l'ai nommée. D'emblée, je pense que c'est la première chose que j'ai dit. On a une politique de développement durable qui existe déjà depuis 2014, qui est existante.
Est-ce que je pourrais connaître le numéro, la politique de développement durable?
Sur l'intranet, on me dit qu'elle est là, mais écoutez, peut-être tu peux le montrer, Raphaël, à monsieur.
Les initiatives là, au niveau du développement durable, au niveau du RTC. Puis je vous mentionne, par exemple, le garage Métrobus. C'était le premier garage à obtenir une certification LEED pour la réduction de la consommation énergétique, moins de 50 % puis la réduction de la consommation d'eau potable, aussi de moins 30 % Donc, même dans les bâtiments qu'on construit, on a cette réflexion-là comme organisation. Puis, on a été aussi la première société de transport en commun à obtenir la certification là, Clé verte. C'est un programme de certification québécoise là, qui reconnaît la valorisation des mesures environnementales qui sont implantées dans des ateliers de mécanique automobile. Fait que ça, on a aussi eu ces mesures-là. Donc, il y a un souci au-delà de la politique d'avoir des initiatives qu'on a à différents endroits de notre organisation dans des projets, dans nos initiatives pour faire en sorte qu'on soit un leader en matière de mobilité durable. Est-ce qu'on peut continuer à s'améliorer, à progresser comme organisation? La réponse est oui. Puis on va continuer à le faire. Donc, dans ce cadre-là, si vous avez des idées ou des projets, bon, on a des gens à l'interne, puis vous avez des endroits où vous pouvez faire valoir.
C'est seulement d'être cohérent parce que, tu sais, vous parlez de la LEED, là. Mais c'était de garder quand on construisait la bâtisse.
Je veux juste être respectueuse de Mme Dion, à qui j'ai demandé seulement une question et une sous-question. Ouais. Si vous voulez, on pourra s'en parler après le CA.
C'est un petit peu ce que je trouve déplorable. Ouais. C'est du CA, c'est parce qu'on pose des questions, mais on détourne souvent la réponse. Je ne veux pas juger, là, mais c'est parce qu'on parle de clés vertes, on parle de choses comme ça, mais c'est pas respecté. C'est la rigueur là-dedans. Là, on demande la rigueur aux employés. Mais la rigueur à d'autres instances ne sont pas respectées.
Mais
c'est
vous
seulement
savez,
ce que je peux déplorer.
Je terminerai peut-être.
Je ne voulais pas faire d'échange.
C'est qu'en fait, il y a un décorum aussi à suivre. T'sais, vous le savez, dans un conseil d'administration, ça ne peut pas être un échange. C'est au même titre que dans nos conseils de ville, dans nos conseils d'arrondissement avec les gens. Il y a des canaux pour ça. Des fois, on peut aussi se parler à travers justement ces rencontres-là après. Mais évidemment, vous avez des canaux à l'interne du RTC qui permettent ces conversations-là et ces dialogues-là. Donc, moi, je vous invite vraiment à les utiliser à ce moment-là et de faire part de vos observations parce qu'on veut toujours cheminer. M. Girard vient de le dire. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Je pense que oui. On peut toujours s'améliorer. Puis c'est en parlant souvent qu'on se comprend aussi. Donc, voilà.
Merci.
Merci à vous. Donc, pas d'autres questions. On pourrait poursuivre à ce moment-là avec le point 5, l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 5 février. 2025. Proposé par? Oui, je m'excuse, Mme Leblanc, merci. Et appuyé par?
Je vais le faire.
Mme Sanfasson, merci. L'approbation du point 6, approbation du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 mars 2025. Donc, proposé par? M. Lachance, appuyé par?
Je l'appuie.
M. Hinz, merci. Point 7, dossier soumis au conseil d'administration, le développement de réseau et expérience client. Le point 7.1, modification de parcours. Madame la secrétaire générale.
Oui, merci. Alors, il est recommandé de modifier, d'abolir et d'établir les parcours qui sont détaillés au document joint en annexe du présent sommaire décisionnel pour valoir comme partie intégrante de la présente recommandation, et ce, à compter du 23 août 2025.
Merci. Alors, c'est proposé par? Merci. Oui, vous veniez de le faire. Je m'excuse, Mme Sanfasson. C'est ma distraction. Je m'en excuse. Donc, le point expertise d'affaires à ce moment-là, le point 5.2, dépôt du rapport financier.
Oui.
Ah, je m'excuse. Voyons. Je suis désolée. Monsieur Lavoie, merci. Expertise d'affaires maintenant, le point 7.2, dépôt du rapport financier incluant le rapport du vérificateur général et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2024 et autorisation d'un virement de l'excédent de fonctionnement.
Oui, alors il est recommandé de prendre acte du dépôt du rapport financier incluant le rapport du vérificateur général ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier terminé en 2024 et le transmettre au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au greffier du Conseil d'agglomération de Québec, le tout tel que détaillé au document joint en annexe du présent bordereau pour valoir comme partie intégrante de la présente recommandation.
Merci. C'est proposé par M. Jonca, appuyé par M. Lachance. Adopté le point 8 d'hiver. Il n'y en avait pas. Le point 9, période d'intervention des membres du Conseil. Donc, nous en serions au point 10, levée de l'Assemblée. Il est présentement 17h24. Merci. Bonne soirée à tous.